les médias francophones publics. RTBF.
Ici Radio-Canada.
France Inter.
RFI, Radio France Internationale.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Queyrade.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone estivale, deuxième saison. Reportages et rencontres à travers le monde, voici le sommaire de ce nouveau numéro. Et dans un court instant, nous irons au Canada, dans le Vieux-Montréal, avec une auteure et éditrice atypique qui a bouleversé le monde de l'édition québécoise. Mélanie Vincelette nous a accueillis dans ses bureaux, tout en bois, dans un lieu historique. Nous vous emmènerons à l'Académie française, sous la coupole, avec l'académicien franco-libanais Amin Maalouf, pour un reportage exceptionnel. Le club francophone de la semaine sera placé sous le signe de la séduction, en partenariat avec le journal Le 1 d'Éric Fauteuil. Torino. Le fidèle Philippe Claudel est en plateau avec nous. Bonjour Philippe Claudel.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes accompagné d'une grande personnalité de la littérature française.
Oh oui, elle est romancière, elle est dramaturge, elle est comédienne. C'est une excellente écrivain et en plus une très bonne camarade, c'est Véronique Olmy.
Exactement. Bonjour Véronique Olmy.
Ça commence très bien.
Ouais, c'est pas mal, hein
ouais.
Est-ce que ça va durer? Nous verrons.
Ah, on va voir.
On va voir. Soyez la bienvenue dans la librairie francophone, Véronique. Vous avez été finaliste du dernier prix Goncourt pour votre roman Bakita. C'est l'été, nous allons donc parler de la séduction avec un recueil de nouvelles consacré au sujet qui est sorti très récemment. Séduire, c'est mentir, c'est jouer un rôle? Véronique ?
Non, c'est jouer le jeu.
Jouer le jeu. Philippe Claudel ?
Oui, c'est s'abandonner au désir et essayer de le provoquer.
Vous le provoquez, le désir, vous ?
Constamment.
Constamment ?
Oui, oui, mais c'est, quand on parle de désir, c'est pas seulement un désir amoureux. C'est, ouais. C'est un désir de vivre, un désir de rencontre, un désir de parole.
Bien, ça promet, on verra ça ensemble tout à l'heure. Vous entendrez aussi la chanteuse Jeanne Chéral qui jouera un titre au piano dans notre studio. Et nous serons avec Claire Balavoine, entre l'Afrique et l'Occident, pour un hommage à Daniel Balavoine.
La librairie francophone, estivale. Emmanuel Queyrade.
Dans cette ambiance estivale, on commence avec un nouvel épisode de notre série Un auteur, une ville, cap sur le Québec avec Mélanie Vincelette. Place Diouville, centre historique de Montréal, dans le vieux Montréal. 300, 302, 306, c'est là. Avec un passage voûté, édition Marchand de feuilles C32. Un escalier en bois verni. On a une charpente en bois. On se croirait dans une vieille maison, c'est drôle. Bonjour.
Ça va bien. C'est ici.
C'est ici. Bonjour Mélanie Vincelette.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va très bien.
Merci, c'est beau ici, c'est magnifique.
C'est un lieu historique d'importance. Là. Les murs racontent l'histoire de Montréal ici, c'est incroyable. J'ai de la chance d'avoir mes bureaux ici depuis une vingtaine d'années.
On est sous pente, hein, comme on dit.
C'est dans la mansarde.
Voilà, dans la mansarde avec des poutres en bois partout.
C'est magnifique, c'est un immeuble en pierre grise de Montréal, comme on l'appelle. C'est une pierre de calcaire. Donc, ce qui est particulier vraiment, c'est que fondamentalement, les terrains ici appartenaient aux Sœurs Grises. Donc, dans l'histoire de la Fondation de Montréal, c'est très important. C'est une communauté religieuse qui existe encore aujourd'hui. C'est des femmes d'affaires redoutables. Justement, elles viennent de vendre leur dernier immeuble l'année passée au musée, juste à côté. Donc, c'est elles qui dirigeaient beaucoup le vieux Montréal, d'une certaine manière. Puis, l'appellation Sœur Grise, c'est un sobriquet. C'est-à-dire, leur vrai nom, c'est les Sœurs de la Charité. Mais la fondatrice, Marguerite Diouville, avait un mari qui était contrebandier d'alcool et... un alcoolique fini. Donc, quand elle est devenue veuve, elle a fondé la communauté des Sœurs de la Charité, mais les femmes bourgeoises de Montréal l'interpellaient dans la rue et les appelaient les Sœurs Grises, mais c'est resté.
Alors, les éditions Marchand de feuilles, depuis 2000, hein, c'est ça, vous êtes installée?
Depuis 2000, j'étais vraiment jeune, j'avais 26 ans.
Vous êtes toujours jeune, Mélanie.
Mais quand même.
Alors c'est étonnant parce que vous avez été éditrice avant d'être auteur. Comment ça s'est passé? Parce que vous êtes une écrivaine très connue ici.
Oui, ben j'ai écrit des romans, mais à la base j'étais étudiante au doctorat à l'université McGill et je voulais écrire, je voulais faire de l'édition.
Bon, on va s'asseoir à votre bureau, là, juste là, près d'une fenêtre. Essayez de pas me cogner parce que on arrive vraiment sous la pente avec une superbe place. Elle range ses notes. Et vous inquiétez pas, Mélanie, on va rien regarder.
Non, j'ai honte, là, c'est vraiment le bordel.
La place, là, qu'on voit à travers la fenêtre?
C'est la Cour des Miracles. Tu vois, Emmanuel, ici, c'est tout petit, c'est un petit bureau, c'est une entreprise qui est miniature et artisanale, d'une certaine manière, mais ça a une ampleur comme importante. Puis quand les gens viennent ici, j'invite pas beaucoup de monde, dans le fond, à venir dans mon bureau. Mais l'ampleur de la chose, c'est que, fondamentalement, je pense que pour faire de l'édition, il faut réellement être à une petite échelle.
Alors, deux gros succès hein, ici au Québec, deux livres qui ont beaucoup fait parler d'eux et qui ont permis aux éditions Marchand de Feuilles de s'émanciper complètement.
Oui, voilà. Donc, au début, je mangeais vraiment mon chapeau là, comme Van Gogh. Là. J'arrivais pas. C'est très difficile de survivre. Mais dans le fond, le succès de La fiancée américaine d'Éric Dupont a été phénoménal. C'est une traînée de poudre. Puis, ça, c'est pas juste un impact commercial. Les gens se sont identifiés à ce livre-là. Ils se sont dit, ah, enfin, on peut visiter les territoires comme, dans le fond, la Gaspésie avec un regard que Garcia Marquez peut avoir dans son œuvre. C'est un peu ça. Donc, c'était une œuvre magistrale qui est comme une genre de poupée russe qui contenait, dans le fond, toute l'histoire du Québec. Et c'est la même chose pour le livre d'Anaïs Barbeau-Lavalette, qui est un succès assez étonnant également. C'est un livre magnifique, mais on s'attend jamais à avoir une réponse comme ça du public. Se fait arrêter constamment dans la rue. Les gens s'épanchent et lui racontent leur histoire personnelle. Mais en même temps, c'est un très beau livre dans le sens où c'est un livre historique parce que sa famille fait partie, dans le fond, d'une révolution des peintres au Québec. Le côté universel est allé chercher les gens également.
Alors, ce que j'aime beaucoup, moi, chez Marchand de Feuilles, c'est le format des livres. Il y en a un derrière, je vais me permettre d'en prendre un. Rectangulaire, très serré, on va dire. Hein. C'est un format très particulier avec un très beau papier à chaque fois.
Oui. Le format est étudié pour que ce soit parfait pour la lecture. Et la police de caractère, c'est Sentinelle, qui est une police de caractère que j'adore. Mais cette police-là, on l'avait fait justement, on l'avait utilisée pour la première fois dans La fiancée américaine d'Éric Dupont parce qu'il y avait 250 000 mots dans son livre.
Oui, c'était un très gros livre. Exactement. Alors, c'est ce qu'on vous a fait comme reproche d'ailleurs, et j'en ai fait partie, hein, des critiques, je l'avoue. C'est que La fiancée américaine, c'était un gros bouquin sur un papier très fin, avec une police de caractère très petite, et c'était franchement un peu difficile d'accès.
Exactement.
Disons-nous les choses.
On n'avait pas le choix de faire ça, Emmanuel, sinon on ne pouvait pas l'imprimer, ça coûtait une fortune. Si tu voyais, j'ai l'édition française, là, ils l'ont fait, le gros format de l'édition française, c'est même pas un livre, c'est un bottin de téléphone, c'est presque ridicule, on ne peut pas le transporter, donc c'est la raison pour laquelle, mais donc tout le monde nous l'a reproché.
Alors du coup, voilà, on vous l'a reproché, puis il a été un peu mieux édité, mais c'est une exception, parce que Marchand de Feuilles, il y a toujours des très très beaux objets, très beaux livres, très beaux bouquins. Je vois Suzanne Mire derrière. Vous vous sentez comment ici, là, entourée de tous ces livres?
J'ai l'impression d'avoir de la chance d'avoir pu rencontrer ces écrivains. Juste de réfléchir que les deux plus grands best-sellers littéraires au Québec ont été publié ici, j'arrive pas nécessairement à y croire. Moi-même, je suis toujours dans les textes. Je suis comme une carmélite, là, cloîtrée ici, en train de...
Comme une sœur grise.
C'est ça, je suis comme une sœur grise dans mon bureau.
Habillée tout en noir, hein, aujourd'hui. Hein.
Voilà. J'aimerais qu'on me libère. Je suis prisonnière.
Continuez comme ça. Marchand de Feuilles. Merci. Formidable maison d'édition. Merci de nous avoir accueillis ici.
Emmanuel.
Au cœur de Montréal, hein, dans le centre historique.
Montréal a été fondé sur la place Duville ici, donc, voilà. Par Jeanne Mance.
Tout part de là. Merci Mélanie.
Merci Emmanuel.
À bientôt. Et à suivre dans la librairie francophone estivale, une autre escale avec Amine Mahalouf à l'Académie française et nous serons avec Philippe Claudel et Véronique Olmy pour le club francophone. Avant cela, voici un son de l'été que vous allez tous reconnaître avec les Négresses Vertes. Bel été à tous avec la librairie.
Voilà l'été, voilà l'été, voilà l'été, voilà l'été, voilà l'été. j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Tu es dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir le plaisir de la vie. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Les dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir le plaisir de la vie. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail, les filles sont belles et les vieux sont ravis.
Les négresses vertes, une version courte de Voilà l'été sur France Inter, la RTBF, Radio-Canada et RFI. On vous emmène à l'Académie française tout de suite pour un reportage exceptionnel avec Amine Mahalouf.
La librairie francophone estivale, Emmanuel Kérad.
Nous sommes à l'Académie française dans la petite salle des réunions, comme l'on dit ici. Bonjour Amine Mahalouf.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous accueillir ici dans cette salle. Vous êtes installé à la place exacte où vous êtes installé quand il y a des réunions. Quand...
C'est la place qui m'a été assignée le jour de mon installation à l'Académie. L'installation, ce que nous appelons installation, c'est ce qui se passe une semaine avant la réception officielle. Il y a une installation en privé. On vous désigne un fauteuil et vous êtes censé garder ce fauteuil jusqu'à la fin de votre vie.
Vous pouvez choisir ou pas ? Vous pouvez émettre un avis ?
Non. Non. Non, on vous désigne un fauteuil et vous êtes très content de le prendre et de vous y installer.
Bien évidemment. Alors vous publiez justement un fauteuil sur la scène, 4 siècles d'histoire de France aux éditions Grasset. Vous racontez l'histoire de ce fauteuil numéro 29 que vous occupez depuis 2011. Ce fauteuil a une particularité. Le premier occupant est Pierre Bardin, qui est aussi le premier immortel à mourir. Ça va très vite pour lui.
C'est un homme qui est complètement oublié. En réalité, Bardin ne faisait pas partie du petit groupe fondateur. Le petit groupe, c'était 9 à 10 personnes, très jeunes. L'animateur du groupe avait 26 ans. Il y en avait un qui avait 18 ou 19 ans. La moyenne d'âge était inférieure à 30 ans, en tout cas. Et ils se réunissaient en privé. L'académie, proprement dite, a commencé quand Richelieu leur a demandé de se réunir sous autorité publique. Et il leur a demandé d'augmenter leur nombre jusqu'à 40. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont choisi des personnes qui ne faisaient pas partie de ce groupe. Et l'un d'eux est Pierre Bardin, qui est le premier occupant de ce 29e fauteuil.
Il meurt 14 mois après son élection, car il se noie dans la Seine en voulant sauver son disciple. L'histoire est dramatique.
Il avait un jeune noble qui s'appelait le marquis Dumière, dont il était le précepteur. Il était très attaché à lui. Et un jour, ils étaient du côté de Charenton. Le jeune marquis voulait nager dans la Seine. Il commence à se sentir mal. Pierre Bardin se jette à l'eau pour essayer de le sauver. Et c'est lui qui meurt. Le marquis survit, mais c'est Bardin qui meurt. Le premier immortel à mourir.
Alors du coup, Amine Mahalouf, vous racontez à partir de cette histoire de Pierre Bardin une partie de l'histoire de France et surtout une partie de l'histoire de l'Académie française. Cette Académie qui au départ, vous le disiez, était une réunion entre amis nommée la Compagnie, et c'est le cardinal de Richelieu qui lui veut finalement institutionnaliser, il veut formaliser cette compagnie sous l'égide de l'État.
Je pense qu'il a au moins deux objectifs, le cardinal de Richelieu. Le premier, il voudrait que les choses s'organisent sous son égide. Mais il y a un autre aspect aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui aime la littérature, qui s'intéresse, qui écrit lui-même, qui a probablement des ambitions littéraires. Et le fait d'être le parrain, le fondateur d'une académie littéraire, je pense que c'est quelque chose qui le touche profondément. Il s'attache à cette académie et il fait tout pour qu'elle commence sous les meilleures conditions possibles.
Alors, au départ, les réunions vont se tenir au Louvre, évidemment, jusqu'en 1805. En 1805, Napoléon décide d'installer l'institution ici. Votre fauteuil, le numéro 29, le premier à l'occuper sous cette coupole, c'est un fan de Molière.
Le premier, effectivement, s'appelait Jean-François Caillava. C'est un homme assez étrange. Il a passé sa vie dans le culte de Molière. Et il a commis un acte qui était très pieux et en même temps un peu profanateur et certainement de mauvais goût. Au moment de la Révolution, on a démoli le cimetière où se trouvait Molière. Et sa dépouille a été exhumée. Et Caillava a assisté à l'événement par dévotion à Molière, sauf qu'il a eu l'idée de prélever une dent de Molière qu'il a enchâssée dans une bague. Et ses adversaires, qui jugeaient la chose un peu étrange, disaient que Molière avait une dent contre lui.
Oui, c'est ça. Voilà l'une des histoires que vous racontez dans ce livre. Alors Amine Maalouf, on va se déplacer, on va aller sous la coupole sur votre proposition, aimable proposition, cette visite comme cela de l'Académie française à travers le son. Alors, on change de bâtiment. La cour intérieure de l'Académie française. Et la coupole qui est juste devant nous.
En fait, les réunions se passent le jeudi dans la salle que vous venez de voir. La coupole, c'est uniquement pour les séances officielles solennelles. Pour mon discours de réception, j'étais ici. On est toujours au même endroit. Il y a généralement un micro qui est posé là. On se lève au début de la séance et on lit son discours. Et là, sur la tribune, il y a au milieu, d'habitude, la personne qui vous reçoit au nom de l'Académie et qui, à la fin de votre discours, va prononcer son discours avec Madame Carrère d'Encausse, secrétaire perpétuelle. Là, à droite et à gauche, généralement, le directeur de l'Académie pour le trimestre en cours.
Alors, le célèbre anthropologue Claude Lévi-Strauss, votre prédécesseur, lors de sa réception ici, où nous sommes installés, nous sommes vraiment sous la coupole, sur ces fauteuils verts, eh bien, lorsqu'il arrive, il va comparer le cérémonial de l'Académie et les rites d'initiation de la population amérindienne du Canada.
Oui, Lévi-Strauss, d'abord, c'était quelqu'un qui était très célèbre, mais qui ne jouait jamais à la diva, qui s'est plié pleinement au rituel. Et avec joie. Et il a même fait l'éloge du rituel de l'Académie. Il était heureux de porter le costume de l'Académie. Et effectivement, il a surpris ses confrères lors de sa réception en comparant le rituel à celui de certaines populations amazoniennes qu'il avait étudiées dans les années 30.
Et ça laisse plein d'images en tête, ça.
Voilà, ça laisse beaucoup d'images. Les gens devaient s'imaginer à moitié nus avec des plumes. Et bon, il s'est amusé avec cela, évidemment. Et en même temps, vu qu'il avait beaucoup de tendresse pour ces populations, il ne fallait pas considérer cela comme une attaque, mais au contraire, comme une manifestation de sa particularité et de sa personnalité.
Merci beaucoup Amine Maalouf, merci infiniment de nous avoir reçus ici à l'Académie française sur le fauteuil numéro 29 et ensuite sous cette coupole magnifique où il est inscrit comme ça des mots en latin.
La particularité, quand vous la regardez d'ici, elle est ovale.
Oui, et exact.
Quand vous la regardez de l'extérieur, elle est ronde.
Merci beaucoup. Un fauteuil sur la scène est paru aux éditions Grasset. Un livre passionnant sur l'histoire de ce fameux fauteuil avec d'illustres personnages. Merci Amine Maalouf.
Merci à vous.
À suivre notre club francophone sur le thème de la séduction avec Philippe Claudel et Véronique Olmy. Nous allons vous séduire avec cette rencontre, je l'espère. Et voici le duo de DJ français Polo et Pan avec Arc-en-Ciel.
Je t'emmènerai jusqu'au
Apollo et Pan avec Arc-en-Ciel sur votre radio francophone.
Les médias francophones publics. RTBF.
Ici Radio-Canada. France Inter.
RFI, Radio France Internationale.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Queyrade.
Philippe Claudel et Véronique Olmy sont dans le club francophone pour un petit livre édité par le journal Le 1. 11 histoires de séduction avec des nouvelles signées David Fuenquinos, Olivia Adam, Kaoutera Dimi, Lola Lafont, Philippe Jaénada et plein d'autres. Véronique Olmy, dans votre histoire, la séduction se confronte au pouvoir. La séduction est-elle une forme de contre-pouvoir ?
La séduction, c'est vouloir entrer en lien avec quelqu'un. C'est vouloir la tirer à soi pour une raison ou une autre. Donc ça peut être amoureux, ça peut être mercantile, ça peut être... Là, il se trouve que c'est une femme qui a besoin d'avoir une sorte de passe-droit pour son enfant en classe.
Voilà. Oui, c'est ça. Je c'est une maman qui veut que son fils entre dans un bon collège.
Alors ça peut être une mère... Enfin, moi, j'ai éprouvé ça. Ça peut être pour faire rentrer son môme dans un club de sport, pour le faire changer d'école parce qu'il est à l'adolescence, il fout rien et abat tous nos principes de laïcité. On va pleurer devant la directrice d'une école religieuse. Et donc, on y va. Enfin, pour une mère, en général, c'est corps et âme.
Ah oui, c'est ça. Elle est une pianiste célèbre, cette femme, et elle compte jouer sur sa notoriété pour y parvenir. La notoriété, en fait, favorise les démarches de séduction
ou
de pouvoir.
On fait avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut. Donc là, moi, je lui fais dire...
Mais vous, Véronique Olmy ?
Moi, je me suis vue à la mairie pour que mon fils puisse aller au club de basket. Je me suis vue dire, mais si vous voulez que je vienne rencontrer les jeunes... Enfin, mais c'est stupide, j'en avais aucune envie.
Parce que je m'appelle Véronique Olmy, c'est ça ?
Parce qu'elle savait que j'étais écrivain, donc j'avais glissé un livre dans mon sac. Et bien sûr, mais parce que la ville avait déjà fait un papier sur moi. J'étais une sorte de ville cherchait tous les mois quelqu'un qui habitait dans la ville et qui avait un nom qu'on pouvait reconnaître. Et donc je me suis dit, je vais jouer là-dessus mais c'est une des séductions dont sont capables les mères. Mais les mères sont des sauvages.
Ah, carrément.
Ah oui, moi je crois qu'on est sauvage. Je sais pas comment sont les pères, mais oui.
Comment c'est-à-dire qu'il y a Philippe Claudel.
Le père, non, il écoute Véronique. Ça. Donc en fait, ta nouvelle, c'est très autobiographique, cher ami.
Vous êtes servi de votre nom pour séduire Philippe Claudel.
Est-ce que je peux répondre par Jaénada interposé, s'il vous plaît?
La nouvelle de Jaénada
est très drôle. Ce que dit Philippe dans ce recueil, c'est que finalement, quand il était jeune, mince, avec ses cheveux, hyper séduisant, il se prenait des râteaux continuellement. Et puis que maintenant, il dit, c'est lui-même qui le dit, j'oserais pas, je suis gros, je suis vieux, je suis moche, mais je suis écrivain, donc ça marche.
Ça marche, oui.
C'est vrai que on le constate, quand on est dans une position de pouvoir, quel que soit ce pouvoir, politique, pouvoir de l'écrivain, du sportif, celui qui est en scène à un moment. Moi, j'ai toujours constaté que quand je fais des rencontres, je me balade dans la rue avant, personne ne me regarde. Et je croise parfois des femmes qui ne me regardent pas. Et à partir du moment, une heure ou deux heures plus tard, je suis sur l'estrade, je suis devenu l'écrivain. Les mêmes femmes que je reconnais parfois me regardent avec des yeux grands ouverts. Donc c'est vrai que
il y a
ce pouvoir, ce pouvoir de
l'écriture. C'est la porte ouverte à la séduction.
Ça pourrait être une porte ouverte.
Ça pourrait.
Et on voit bien, avec des affaires récentes, comment certains en ont abusé.
Alors justement, Philippe, vous imaginez un monde qui interdit la drague directe, en tout cas la séduction directe. Tout doit passer par Internet. On est dans le métro. Il y a un homme qui regarde une femme dans ce métro, de façon un peu insistante. Cette femme se précipite lors de l'arrêt du métro dehors en hurlant. Le SAMU la prend en charge. Bref, c'est un choc terrible pour elle.
Oui, bien sûr. Enfin, c'est une légère uchronie. Je n'ai fait qu'exagérer un tout petit peu ce qui se passe aujourd'hui, puisque après les affaires Weinstein, etc., on a eu les réactions qu'on connaît. Et notamment, la nouvelle, elle est née de deux choses. J'ai entendu un professeur de philosophie un matin sur une radio du service public dire que regarder une femme dans le métro avec insistance, c'est le début du harcèlement. Et j'ai trouvé ce propos extrêmement intéressant, mais dans le sens dramatique, quoi, dans le sens, je me suis dit, mais tiens, si on en est là, parce que moi qui regarde avec insistance beaucoup d'êtres humains tous les jours dans le métro et ailleurs, je risque peut-être d'être accusé de harcèlement. Et la deuxième chose, c'était une application que j'ai découverte, mise en place aux Pays-Bas, je crois, où finalement, on vous propose de contractualiser votre rencontre à venir. Vous rencontrez quelqu'un sur Internet, mais on vous propose de signer un contrat avec la personne. Est-ce que vous, chacun est prêt à utiliser des mots crus? Est-ce que vous êtes prêt à utiliser des telles positions amoureuses, etc., etc. Donc, je me suis dit, ça y est, c'est la contractualisation de la séduction.
Mais alors, justement, on se dit, Philippe Claudel, quand on lit votre nouvelle, que vous jouez finalement sur une actualité récente et que vous amplifiez de façon un peu provocatrice ces mouvements en réaction aux violences faites aux femmes. Vous faites un peu le provocateur,
oui,
là,
bien sûr, oui,
en
oui,
disant,
oui.
Là, on ne peut plus rien dire, quoi.
Ben voilà, non,
on
ne
peut plus rien faire.
C'est une nouvelle d'anticipation et qui essaie aussi de remettre le balancier sur l'autre côté. C'est-à-dire que, évidemment, il n'est pas question de dire que ces mouvements sont illégitimes, parce qu'ils le sont légitimes. Mais en même temps, j'essaie d'entrevoir aussi ce que pourrait être l'excès inverse.
Véronique Olmé, mais jusqu'où peut aller la séduction aujourd'hui
moi,
avec ces affaires-là?
Ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai lu la nouvelle de Philippe, comme je me mets vraiment en état d'innocence totale quand je lis pour rentrer complètement, j'adore qu'on me raconte une histoire. Et donc j'y vais et je me dis, oh mon Dieu, mais je ne savais pas. Mais moi j'ignore totalement, je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit de regarder tant de secondes quelqu'un dans le métro. Donc au début je me suis dit, oh mon Dieu, mais c'est terrible. Non mais on vit une époque. Et puis quand même, au bout d'un moment, j'ai vu que Philippe a mis une loupe, finalement, sur pas sur ce qui se passe au niveau législatif, mais si ce qui se passe mentalement.
Et pourquoi vous y aviez cru?
Mais au début, mais si, je vous le jure, mais moi je suis...
Véronique.
Ah ben oui, mais moi j'adore quand on me raconte une histoire, être dans un état d'innocence et de perméabilité totale.
Mais vous êtes une romancière.
Tu adores être séduite.
Oui, c'est j'adore être séduite.
Elle est romancière, Véronique Olmé, vous savez qu'on raconte des histoires qui ne sont pas forcément la réalité, vous pratiquez
mais
ça tous les jours.
Mais c'est parce que c'est plausible.
Vous avez séduit par correspondance, Philippe Claudel?
Oui, j'ai fait des essais, disons. Ils n'ont pas été couronnés de succès, parce que, comme j'ai toujours écrit, j'ai toujours adoré écrire, j'écrivais des longs poèmes enflammés à des jeunes filles, qui immédiatement les jetaient à la poubelle devant moi. Donc c'était très très humiliant, mais enfin bref, je ne vais pas faire pleurer, on est en plein été, soyons joyeux.
J'y crois. Hein.
Mais c'est vrai en plus, hein, ça. On peut rappeler quand même l'étymologie de séduire. Séducere en latin, ça veut dire détourner du droit chemin. Donc celui qui séduit essaye toujours de faire dévier quelqu'un, de l'amener sur une autre route qu'il n'avait pas prévu d'emprunter. Et c'est vrai que le langage a une séduction propre, on le sait quand on essaye d'écrire, quand on fait des textes comme nous, il a une séduction propre qui donne un pouvoir à celui qui parvient à le manipuler.
Bien. On vous a demandé de réfléchir à une plage, quelque part dans le monde, à une découverte culinaire, mais aussi à une musique pour vous, Philippe Claudel. Quelle musique incarne l'été, sur laquelle vous pourriez séduire, par exemple?
Alors, qui me séduit déjà, hein. Oui. C'est une chanson de Sufjan Stevens, qu'il avait écrite pour un film qui est sorti cette année. La chanson s'appelle Mystery of Love.
On écoute un extrait. Sur cette musique de Sufjan Stevens. Pourquoi Sufjan Stevens?
Ça me fait complètement craquer cette chanson. Je l'ai écoutée des dizaines de fois.
Et c'est anglais en plus. Mais bon.
Ça me met dans un état second très très agréable. Déjà le titre bien sûr est très beau.
Ouais.
C'est une histoire d'amour, ce film, Call Me By Your Name. Une histoire d'amour entre un adulte et un jeune garçon. Ça se passe dans une Italie un peu ensoleillée, solaire, à la Giles Avery. Je crois que c'était lui qui avait originellement écrit le scénario. Et chaque fois que j'écoute ce morceau, je me vois dans des étés romains, dans des étés toscans. Je me vois dans des fins de journée extrêmement dorées, cette magnifique lumière, vous savez, qu'on cherche en cinéma ou en photographie.
Et sur quelle
plage?
Et ça
me met en joie.
Quelle plage, quelque part dans le monde, alors avec cette musique?
Alors, une plage, je ne sais pas si elle existe encore, c'est une plage que j'ai connue il y a plus de 30 ans. C'était un endroit sublime en Turquie qui s'appelle Patara. une plage d'une dizaine de kilomètres où nous étions, ma femme et moi, absolument seuls. Pour y aller, nous traversions des ruines gréco-romaines, un petit amphithéâtre à moitié noyé. Et il y avait cette beauté, cette solitude, cette mer immense. C'était au moment où la Turquie était généreuse, où elle était laïque, où elle n'était pas gouvernée par un dictateur, où elle n'était pas au bord d'un gouffre. C'était un instant béni. Je ne sais pas si cette plage existe, je ne sais pas si cette Turquie existe encore.
Bien. Véronique Olmy, avez-vous une plage refuge, vous ?
Une plage refuge, non. Mais une plage un peu comme ça, volée, je dirais, puisque c'était en avril à Paros. Et c'était une plage qui donnait sur une maison fermée. Et donc, on avait, mon amoureux et moi, on avait squatté la terrasse. Moi, je fais souvent ça. Je suis très voleuse de maisons fermées.
Voleuse de maisons fermées.
Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, notamment en Touraine, le long du Cher. Et alors, vous pouvez vous baigner. Je fais ça tout le temps.
C'est vrai ?
Oui, c'est vrai. Je rentre par effraction dans beaucoup, beaucoup d'endroits parce que j'estime que c'est pas logique d'avoir un bout de mer ou un bout de rivière. D'ailleurs, je crois qu'on n'a pas le droit. Et voilà, et c'est ces instants cadeaux.
Votre découverte culinaire ou un plat, quelque chose qui évoque quelque chose pour vous?
Oh, je suis désolée, je ne suis pas très forte là-dessus. Un plat qui évoque quelque chose, c'est un plat tout simple que vous connaissez, qui est la socca de Nice, parce que ça se mange comme ça dans le vieux Nice, avec du papier un peu gras, que c'est bon, que ça appelle le rosé, que c'est trop salé. C'est vraiment pas sophistiqué,
aussi,
c'est
si
les pois chiches, c'est le repas des pauvres.
Ouais.
Mais c'est l'enfance, c'est mes grands-parents et c'est délicieux.
Oui, car vous êtes niçoise. On sera d'ailleurs à Nice pour une émission exceptionnelle. Ça sera à la mi-août avec notamment Didier Von Kovelaert et Costa Gavras dans le jardin Albert Ier. On verra d'ailleurs quel plat ils choisissent. Peut-être la socca d'ailleurs. On verra ça. Philippe Claudel, une petite découverte culinaire pour terminer.
Je vais rester en Turquie encore, si vous me permettez. Le merveilleux tchatchik, ou le tzatziki grec, puisque vous savez qu'il y a toujours des querelles culinaires, et pas seulement entre les Turcs et les Grecs. Le tchatchik, un yaourt frais, avec des morceaux de concombre, avec un peu d'ail, avec un peu d'huile d'olive. C'est tellement rafraîchissant et c'est tellement l'été.
Voilà, c'est l'été avec vous dans la librairie francophone estivale. Merci beaucoup Philippe Claudel et Véronique Olmy d'avoir participé à cette émission. Le 1 hors série, 11 histoires de séduction en partenariat avec la librairie francophone estivale. Un petit livre pas cher, parfait pour les vacances, à emporter partout. Vous y trouverez certainement des idées de séduction à pratiquer ou pas. Restons fidèles quand même si c'est l'été. Merci beaucoup. Dans un instant, un moment fort avec Claire Balavoine, la sœur de Daniel Balavoine, qui nous parlera de l'Afrique et de son frère dans un vibrant hommage. Avant cela, voici Jeanne Chéral au piano dans les studios de la librairie francophone.
J'ai faim quand je te regarde, je pourrais dévorer ton visage, ta nuque et ton cou comme un amoureux jaloux. Attends-tu ça de moi? J'ai faim quand je te regarde, si tu pouvais m'offrir à ton âge un cœur éclaté, un jardin de pluie d'été, moi j'attends ça de toi. J'ai faim, je voudrais courir sur le bitume accroché de clous, la falaise de sel au mois d'août, le parvis des églises et des temples. J'ai faim, je voudrais mourir dans un éclat de rire à minuit, dans un fracas de verre à midi, ma caresse arrêtée sur ta tempe. Trouver le courage de nager jusqu'au sexe de la terre. J'ai faim le jour et la nuit, je ne veux plus dormir davantage. Parle-moi des semaines, des heures entières. J'ai faim, je voudrais courir sur le bitume accroché de clous, la falaise de sel au mois d'août, le parvis des églises et des temples. J'ai faim, je voudrais mourir dans un éclat de rire à minuit, dans un fracas de verre à midi, ma caresse arrêtée sur ta tempe. J'ai faim de lait de riz blanc, de verbes féminins, de musique. Dedans sur mon cou, j'ai faim d'un amour fou, tu sais, j'ai faim. Souvent, j'ai faim de mots étouffants, de perles d'eau, de forêts antiques, de cris de naissance et de bruit dans le silence, tu sais, j'ai faim de tout.
La généreuse Jeanne Chéral, que j'embrasse à distance, en version acoustique dans les studios de la librairie francophone, au piano avec J'ai faim, sur votre radio francophone publique. Hommage à Daniel Balavoine avec sa sœur Claire pour conclure cette édition, et on commence par une histoire.
La tolérance, l'espoir, la vérité que tous nous promettent, nous les attendons. Et quand nous les revendiquons, nous devenons idéalistes. C'est vrai, c'est facile d'être contre tout, mais ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de n'être pour rien. Moi, je vous le dis, il vaut mieux rêver tout haut que de subir le cauchemar en silence. Toute la classe politique tient un discours complètement décalé par rapport à la réalité. Les hommes politiques sont des pros. Le pro exerce un métier. S'il s'en sort, s'il essaye d'être authentique, il risque finalement sa carrière. Il est piégé et il nous piège. Nos grands-pères et nos pères le disaient déjà. Tous les mêmes. Ce qui est grave, c'est justement qu'aujourd'hui encore, 50 ou 100 ans après que l'on ait fait cette constatation, il faille le rappeler. Les journalistes ont en principe la possibilité de dire tous les jours ce que moi, j'ai eu la possibilité de dire en une seule fois. Mais tout le monde ferme sa gueule.
Pierre Assouline sur la musique de Daniel Balavoine et cette chanson hommage à l'Afrique et aux femmes pour la femme veuve qui s'éveille. Cet album, Loin des yeux de l'Occident, c'est le plus engagé, c'est le plus international, Claire Balavoine.
Oui, je crois, là, je suis encore émue, là, sous le choc.
De ses paroles.
Ben oui, parce qu'il était tellement lucide, tellement pressé de faire comprendre ce que lui avait déjà dans ses tripes. Là, je suis encore un petit peu bouleversée. Oui, c'était le plus important, d'autant qu'en plus, il enregistrait la musique, tout ça, et au Maroc, et au Mali aussi. Donc, il était vraiment les pieds sur terre et d'une vie incroyable.
Et il a intégré tout cela dans sa musique. On va y revenir dans un instant. Juste avant, on va rappeler que vous avez monté cette association Daniel Balavoine et que vous poursuivez l'action de votre frère. Elle continue cette action avec l'installation des motopompes. Il faut savoir qu'une motopompe irrigue 20 hectares et un hectare donne 7 tonnes de riz par récolte. L'idée, c'était l'idée de Daniel, ça, c'est de parvenir à l'autosuffisance alimentaire.
C'était surtout le désir des populations. Ce qui est le plus fort dans tout ça, c'est que c'est une nuit dans un bivouac entre Thierry, Sabine, son ami, et lui-même, entre autres, d'où la création des Paris du Cœur, non pas pour les Blancs imposer quoi que ce soit à nos anciennes colonies françaises, mais voilà, quel est votre problème? Et l'association, j'ai rien fait, moi. Je n'ai fait que me mettre à côté du public qui est passé de l'image et du son à l'action, qui nous a envoyé des milliers de lettres, des milliers d'argent, et qui nous ont dit, on n'est pas connus, les hommes, on ne peut pas les acheter, mais les motopompes, oui. Et c'est né le jour même de l'annonce de sa disparition. Voilà, c'était il y a 30 ans.
Alors dans ce livre, Claire Balavoine, vous retracez la carrière de votre frère au moment où il se trouve en Afrique sur le Paris-Dakar pour son action humanitaire l'année de cet accident d'hélicoptère. Eh bien, son album Sauver l'amour vient de sortir. Et alors qu'on le voit comme ça en action, hein, presque en direct, au quotidien, à la télévision, auprès des villages africains, on entend une chanson qui fait un écho direct à son engagement. Daniel Balavoine, qui a cette voix très particulière. Au début de sa carrière, c'est à la fois ce qui attirait et ce qui rebutait parfois.
Ce qui rebutait d'abord, monsieur Barclay, qui dit « Je te vois, ce petit... Bon, je n'en veux pas chez moi. Ouais. » Et non, et une voix hors norme, dont on sait qu'il pouvait chanter très bas et aller très haut. Et surtout très naturellement. La professeure à laquelle on, de chant à l'opéra à qui on l'avait confié, Daniel a dit « Mais moi, j'ai rien à changer. » Elle a dit « Bon, d'accord, on peut vous apprendre à respirer, si vous voulez. »
Elle est sur le fil, on l'entend, hein, sur cette chanson. Il chante tous les cris, les SOS, une chanson très difficile à interpréter, avec une justesse incroyable. Il y a eu des reprises, mais franchement, c'est une chanson pour lui, une chanson sur mesure.
Ben, il les écrivait pour lui, hein. Il n'était pas fou, le petit gars. Mais c'est ça qui est puissant. C'est que... Voilà, c'est ça.
Regardez,
qui est puissant.
Écoutez cette justesse incroyable. Il aurait dit « J'aime tellement ce disque que j'aimerais que ce soit mon dernier ». C'est vrai, ça ?
Alors, je ne peux pas parler à sa place. Mais je sais qu'il le trouvait extrêmement précis dans ce qu'il avait envie de faire passer. Et voilà.
Daniel Balavoine, le rebelle, Claire Balavoine, dès son enfance quasiment, il fait une fugue alors qu'il est en pension, vous le racontez, en tout cas c'est raconté dans le livre, vos parents sont séparés, il faut le savoir, l'un est parti à Tizi Ouzou, en Algérie, le papa.
Oui, il a été nommé là-bas, enfin voilà. C'était très bien ça.
Et la maman à Nice. Alors du coup, il entre au pensionnat et il fait une fugue. Alors, bon, voilà, tout le monde le cherche. Finalement, il finit par rentrer. Et au moment où il rentre au pensionnat, il entend à la radio, dans la chambre d'un surveillant, une chanson qui va lui donner l'envie, voire qui va le décider à faire de la musique. C'est « She Loves You » des Beatles. Ça gratte, oui. Vous la chantez, cette chanson. Il gardera comme ça toujours une passion pour la musique anglo-saxonne. Après, ce sera Supertramp, Peter Gabriel. Il avait un projet d'ailleurs avec Peter Gabriel. Il est mort malheureusement avant. Il donne toujours à ses chansons une touche pop.
Oui, parce que... On est tous populaires. Il est de la terre. Il est. J'arrive pas à en parler au passé. C'est quand même terrible ce que je dis. Mais oui, on se revendique dans la famille, enfin comme tel, en tout cas lui et moi, parce que d'abord Balavoine, on est en plus de souche basque à trois quarts, un peu landais, et c'est la terre. Et Balavoine, Balavoine, ça parle quand même. Il est pop, mais dans le sens contact direct, simple, immédiat avec les autres. Je crois qu'il a été cet artiste-là que tout le monde. Vous avez connu Daniel en tant qu'artiste. Chanteur, compositeur, interprète, mais s'il n'avait pas été cet homme-là depuis le départ, il n'aurait jamais pu pondre cela artistiquement avec autant de force. Et c'est parce qu'il était le même dans la vie et sur scène que ça a cette présence encore maintenant.
Et Michel Berger, lui, va être fasciné par cette voix. Oui, il va lui proposer un autre album concept, collégial, celui-ci, c'est Starmania. Et dans le livre, il y a Fabienne Thibault qui dit qu'il a su apprécier ses relations avec ses homologues québécois malgré les différences. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y a peu de collaboration entre les artistes français et québécois. Et là, il se passe quelque chose. Lui, il intègre tout de suite la mentalité québécoise.
Bah parce que Daniel n'était effaré ni embêté par aucune autre différence par rapport à ce qu'il était lui-même. Au contraire, il était toujours intéressé par l'autre. Et ça s'est passé tout seul. Bon, il y a quand même eu des frictions avec Diane Dufresne.
Avec Diane Dufresne,
Et ça, je pense que c'était par rapport à une relation d'un autre ordre.
Bah, ça, deux personnalités incroyables. Hein.
Ah, bah, oui.
On a reçu Diane Dufresne dans l'émission, elle a gardé comme ça cette
femme.
Personnalité très forte. Alors, avec Daniel Balavoine, on peut comprendre.
Ça, c'est leur histoire à eux.
Oui, c'est leur histoire. Dirons-nous. Le succès arrive avec le chanteur. 800 000 ventes de l'album. 800 000. Balavoine est lancé, il agite les plateaux télé contre la guerre, pour une politique en faveur de la jeunesse. Il ouvre sa gueule dès qu'il le peut. Vous avez eu peur pour lui un moment, Claire ?
Jamais.
Jamais.
Moi, j'étais très fière de constater qu'il avait en lui la force de pouvoir oser être ce qu'il était, tout simplement. Il n'a jamais été une star, pas pour moi non plus, ni pour lui d'ailleurs, il n'en avait rien à faire. L'argent, il était content d'en avoir, mais il s'en fichait complètement. Lui, ce qui l'intéressait, c'est de pouvoir dire son bonheur, ses douleurs, et surtout, aller au-delà, sur le terrain en général, quoi, et ne pas se contenter de dire ouais ça va pas, non, d'être vraiment sur le terrain de la vie qui l'a insupporté ou qui le faisait vraiment s'éclater, et c'est ça qui fait sans doute la grande différence.
Oui, c'est ça, et il lance véritablement une nouvelle génération de chansons à texte, investi dans son époque comme un reporter, sauf que lui, il chante des choses très dures, parfois douloureuses, tristes, sans l'être. Il est toujours positif et il a toujours une musique très enlevée, dynamique.
Oui, il est vivant, parce qu'il n'a pas honte de dire « ça, c'est, ça ne devrait pas exister, mais voilà ce qu'on peut faire d'autre ».
Oui.
Voilà. C'est ça la différence.
Balavoine, les chansons de Daniel résonnent encore et toujours aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé, malheureusement.
Et oui, parce que tout est organisé autour de nous pour qu'à aucun moment les humains croient que c'est possible. Et ça commence très tôt. C'est-à-dire qu'on n'éduque pas les enfants à oser dire non. Et tant qu'on n'arrivera pas à ça, vous, messieurs et mesdames, qui avez des enfants, osez accepter que votre enfant, votre fils ou votre fille, puisse dire « Non, papa, je ne suis pas d'accord. Non, maman, explique-moi. Et puis j'ai le droit de ne pas penser comme toi. » Et tant qu'on conditionnera ceux auxquels on a imposé la vie à ce que l'on pense, le monde ne changera pas. Donc c'est entre les 3 et 6 ans, 7 ans.
Que ça se joue.
Et moi, vivante, je vais tout faire pour ça.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, Claire Balavoine, pour l'association ?
Pour moi, rien. Pour les enfants, à tout niveau de la société, plus que jamais. Moi, ce qu'on va faire avec l'association, c'est accompagner surtout les enfants au Mali, leur apporter des moyens pour aller à l'école, pour apprendre, comprendre, se défendre avec la plus belle des armes, la culture, la connaissance.
Et on peut vous aider financièrement ?
Et comment ? Vous êtes bien invité.
Le site internet.
Quelques milliards, comme vous voulez.
Donnez le site internet,
alors,
s'il vous plaît.
Alors, associationdanielbalavoine.org. On est en train de... On va vous pondre, sortir le nouveau site. Et bienvenue à tous ceux qui ont envie d'être heureux de voir leurs enfants ici et là-bas, heureux de vivre, tout simplement.
Merci beaucoup, Claire Balavoine. Le livre hommage est paru aux éditions Flammarion. Il faut se replonger dans l'œuvre musicale considérable de Daniel Balavoine, patrimoine de la culture francophone. À bientôt, Claire. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. Merci Véronique Olmy. À très bientôt.
Merci.
Philippe Claudel, au revoir.
Merci, au revoir.
Bel été à vous. À la rédaction, Jean-Philippe Véret de France Inter en France avec les équipes de la RTBF, de Radio-Canada et de RFI. À la réalisation, Cyril Pascal avec Patrick Henry. La semaine prochaine, nous serons au Maroc pour une émission exceptionnelle à Essaouira. Nous vous ferons vibrer au son de la musique d'Inoua au cœur de la ville. Et nous serons aussi avec Eric Orsena pour parler des moustiques. Merci d'avoir écouté la librairie francophone estivale. Bon week-end, bel été à tous.